Fitness, avocate en droit social dans le cabinet Aya chez Marc Landré, associé de SIA Partners. Merci tous les trois. Merci aussi à Sébastien Dudouy qui a assuré la réalisation de ce numéro. Merci pour votre écoute. Vous pouvez commenter bien sûr ce podcast, le noter sur vos plateformes habituelles ou sur l'application RTL et le site rtl.fr.
Bonne nuit sur RTL.
RTL, vivre ensemble.
RTL, il est 1h. 24h d'info, Rachel Sadodine.
Plusieurs centaines de policiers et gendarmes sont mobilisés dans le cadre de l'enquête sur l'attaque meurtrière d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure. Déclaration de la procureure de la République de Paris, Laure Bacquio, qui a exprimé son soutien aux familles des deux agents pénitentiaires tués, l'un âgé de 52 et l'autre de 34 ans. Trois autres sont gravement blessés. Le détenu qu'il transportait, Mohamed Amra, 30 ans, déjà condamné à 13 reprises, est encore en fuite, tout comme ses complices qui ont ouvert le feu sur le fourgon pénitentiaire au niveau du péage d'Incarville. Nous les trouverons et ils paieront, a promis le Premier ministre Gabriel Attal. Son ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a demandé qu'une minute de silence soit respectée à 11h dans les prisons et les tribunaux. L'intersyndicale des établissements pénitentiaires appelle à une journée prison morte reconductible. Des agents pénitentiaires tués dans l'exercice de leurs fonctions, ça n'était pas arrivé depuis plus de 30 ans en France. Pour en parler, le ministre de l'Intérieur d'ailleurs, Gérald Darmanin sera l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40 dans la matinale d'RTL. Dans le reste de l'actualité, des mains rouges ont été taguées sur le mur des Justes à l'extérieur du mémorial de la Shoah à Paris. Emmanuel Macron dénonce une atteinte à la mémoire des victimes de la Shoah. Le chef de l'État qui promet une République inflexible face à, je cite, un odieux antisémitisme. L'actualité à l'international, en Géorgie, après l'adoption de la loi controversée sur l'influence étrangère, les États-Unis menacent de réévaluer leurs relations avec le pays du Caucase. Aussi appelée loi russe par ses opposants, elle pourrait être mise de côté par la présidente géorgienne. La Maison-Blanche dit espérer que la chef d'État utilise son droit de veto. En Ukraine, le gouvernement annonce des coupures de courant dans tout le pays après des bombardements russes. Le président Volodymyr Zelensky réclame des livraisons d'armes de toute urgence à ses alliés occidentaux pour faire face à l'offensive russe dans le nord-est du pays. L'armée de Moscou indique gagner du terrain dans la région de Kharkiv et revendique le contrôle d'un nouveau village. Le football, dans le championnat anglais, Manchester City profite de sa victoire 2-0 contre Tottenham pour reprendre la tête de la première ligue aux dépens d'Arsenal avant l'ultime journée. Manchester City qui tutoie le rêve d'un quatrième titre d'affilée, une série encore jamais réalisée en Angleterre. L'actrice Meryl Streep récompensée par une palme d'or d'honneur en ouverture du 77e Festival de Cannes. On revient sur cette cérémonie présentée par l'actrice française Camille Cotin dans la matinale avec notre envoyé spécial en direct de la Croisette, Stéphane Boutsock. Le temps est instable toute la journée entre nuages, éclaircies, averses, parfois orageuses, surtout dans le sud-est, de la grêle aussi l'après-midi sur le Massif central et le Grand Est, de la neige à 1900 mètres sur les Pyrénées, un temps plus calme avec même quelques éclaircies entre les Hauts-de-France, la région parisienne et sur le Roussillon. Les températures sont en baisse, comptez 9 degrés à Cherbourg, 10 pour Toulouse, 11 à Bordeaux, 12 degrés pour Lyon et Montpellier, 13 à Paris et Nancy, 15 à Nice. Les courses, elles ont lieu à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 13, l'As, le 12, le 6, le 16, le 3, le 14 et l'outsider de RTL, l'As Fashion Touch. Attention, le 9, e-enemy et non partant.
RTL, 24 heures d'info. RTL, jour J, avec Flavie Flamand, la rediffusion.
L'actualité est faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Et ce soir, on vous emmène au cœur d'une grande convalescente, Notre-Dame de Paris. Merci d'être fidèle à jour J, que vous écoutez sur RTL ou en podcast.
Il est près de 20h ce lundi 15 avril. La flèche de 93 mètres de haut, ses 250 tonnes de plomb et ses pierres millénaires s'effondrent comme une brindille.
Ce jour-là, dans son étreinte funeste, le feu a ravagé 900 ans d'histoire. Notre-Dame, le symbole du centre historique de Paris, cette cathédrale gothique qui a connu 3 révolutions et 2 guerres mondiales, souffrait dans les flammes devant les yeux incrédules et l'impuissance des Parisiens et du monde entier. 5 ans après le drame, la grande brûlée est toujours convalescente, mais résiliente, grâce à ceux qui travaillent sans relâche sur le chantier du siècle. Mieux encore, elle a dévoilé des secrets qu'elle gardait jusqu'alors. Mathieu Lourse, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant en histoire de l'architecture à Paris-Cergy Université et vous êtes l'auteur de 2 ouvrages sur Notre-Dame, Notre-Dame des siècles aux éditions du Cerf et La grâce des cathédrales aux éditions Place des Victoires. À vos côtés, Sophie Orange. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Flavie, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous Sophie, on connaît votre voix sur RTL. Vous êtes rédactrice en chef à RTL et vous suivez depuis 2019, depuis le drame, le chantier de Notre-Dame. Vous y êtes entré plusieurs fois dans cette cathédrale. Vous venez d'ailleurs de me livrer quelques informations avant que l'émission ne commence en me disant en fait, elle sera comme elle n'a jamais été ou peut-être comme on l'a vu à ses tout débuts. Je ne sais pas, Mathieu Lourse.
Oui, c'est à peu près ça, mais ce sera une très très belle surprise.
Bon, on sait tous ce qu'on faisait ce jour-là, Sophie Orange, le jour de...
Eh bien moi, je pense que c'est le seul jour de ma vie de journaliste où mon portable était sur silencieux.
Arrête.
Donc une heure après, je me suis dit, tiens, pourquoi j'ai tant d'appels sur mon téléphone? Voilà, donc je me souviens très
vous
bien.
Vous étiez où? Vous faisiez quoi?
Eh bien, j'étais chez moi, rentrée un peu plus tôt que d'habitude, parce que je recevais du monde à dîner, donc je m'affairais dans ma cuisine, et là j'ai vu mon portable en PLS, comme disent les jeunes aujourd'hui. J'ai rappelé immédiatement la rédaction, et on m'a dit, tranquillise-toi, tout le monde est sur place, toi tu viens à 3h du matin pour raconter tout cela en direct. Donc voilà, j'ai pas dormi et je suis arrivée à la rédaction à 3h du matin pour...
Une nuit incroyable,
mais,
j'imagine.
En fait, j'ai pas dormi parce que c'était inimaginable. Mmh. Inimaginable.
Et vous, Mathieu?
Alors moi, je rentrais tranquillement chez moi en RER et un de mes amis qui travaille au musée de Cluny m'appelle en disant « il y a de la fumée qui sort de Notre-Dame ». Je dis « tiens ». Je dis « oui, bon, écoute, ils vont éteindre sans doute très vite ». 10 minutes après, il me dit « la fumée grossit ». Et là, je lui dis « je vais peut-être m'arrêter à Châtelet et pas aller jusqu'à la banlieue nord ». Et donc à Châtelet, je sors et je vois le panache de fumée.
Ouais.
J'arrive et je suis resté là toute la soirée, assister à l'incendie depuis le pont de la Tournelle, la flèche qui s'effondre.
Racontez-nous les braises, l'ambiance, justement, tous ces Parisiens qui étaient à leurs fenêtres, qui
incroyable.
Se sont amassés sur les ponts de Paris. Et ce silence, vous m'aviez parlé d'un silence dans une émission précédente.
Un silence incroyable. Vraiment de la stupéfaction, de la sidération. C'est l'impression d'assister à un événement historique et puis de se dire, mais c'est ça un feu de cathédrale? Parce que combien de fois j'en avais parlé dans mes cours, combien de fois j'avais lu des bouquins sur des cathédrales qui flambent en un quart d'heure, je me suis dit, bon, ça doit être un peu romancé. Je me suis dit, ah oui. Et vraiment cette idée-là. Et puis, progressivement, pareil, le téléphone qui sonne, les sollicitations, qu'est-ce que vous avez à dire? Et j'ai quand même mis une heure avant de répondre aux sollicitations téléphoniques. Je voulais pas parler de ce que je voyais.
Ouais, c'est
je voulais voir.
C'était un jour d'histoire, un jour de l'histoire de France.
Un jour d'histoire qui fascinait le monde entier. Tout de suite, on a vu les chaînes internationales, les chaînes américaines, au Canada, tout le monde était en direct avec cette vue de cette cathédrale et tout le monde tremblait en se disant est-ce que la flèche va tenir? Et en fait, à l'intérieur de la cathédrale, ce que tout le monde ignorait, c'était la bataille des pompiers qui avaient des plans pour lutter contre un incendie dans une cathédrale. Ils ont assez vite compris que cette charpente faite de milliers et de milliers de poutres de bois ne tiendrait pas. Donc, ils ont sauvé le reste. Mais très vite, je pense qu'ils ont compris avant tout le monde que ça ne tiendrait pas. Alors que nous, le public, on se demandait ce qu'elle allait se passer. Et puis après, quand la flèche est tombée, est-ce que les tours allaient tenir? Et là, c'était l'autre suspense de la nuit et les tours ont tenu.
Et
au risque de leur vie, d'ailleurs.
Alors justement, cette nuit-là, il y a eu 400 pompiers de mobilisés. Le commandant des pompiers, le commandant Gallet, a pensé avoir perdu 15 hommes au moment où la flèche s'est effondrée. Et c'est à ce moment-là aussi que le président Macron a dû prendre une décision hyper difficile, hyper risquée, Mathieu Lourse.
Oui, autoriser les pompiers à aller intervenir sur le beffroi de la Tour Nord.
Ouais.
Parce que c'était une sacrée inconnue. Alors, il y a des cathédrales où la structure en bois, ce qu'on appelle le beffroi, a brûlé ou la tour a tenu. À Chartres, en 1836, tout l'intérieur brûle et ça tient. Mais on ne peut pas fonctionner sur une solution miraculeuse comme celle de Chartres. Donc là, il fallait prendre une décision et c'est vraiment une décision politique. Cette cathédrale est politique, son sauvetage a été politique.
Est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu être rasée par les flammes, Sophie Orange, si les pompiers n'étaient pas intervenus et aussi bien ?
Alors, pas complètement rasée, mais les parties les plus hautes n'auraient sans doute pas résisté. Ouais. Après, il faut savoir que ces pompiers sont entraînés. Par exemple, moi, on m'a expliqué que les pompiers ne visaient jamais avec leur lance, avec une puissance de folie, sur les vitraux, par exemple. Dans la mesure du possible, ils essayaient de les épargner. Derrière, les vitraux n'ont pas été abîmés, n'ont pas explosé sous la puissance. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait eu à des moments un manque d'eau. Enfin voilà, depuis, tout a été repensé complètement pour lutter contre un incendie dans une cathédrale comme Notre-Dame. Mais c'est facile à dire maintenant, on se doutait bien qu'elle allait quand même un peu tenir, mais sur le moment, franchement, personne ne faisait les fiers. Tout le monde tremblait. Et après, tous les témoins très proches racontent qu'ils ont tremblé, ils ont pleuré, ils ont eu peur, ils n'ont pas dormi. Voilà, c'est inimaginable, encore une fois.
On va se retrouver, évidemment, dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL pour poursuivre cette émission. On va vous emmener au cœur de Notre-Dame. Alors nous, on n'a pas le droit d'y aller. Je suis passée à côté de Notre-Dame et devant Notre-Dame il y a 3 jours. Nous, on n'a pas le droit, mais vous avez pu pénétrer justement cette cathédrale dont on s'est dit qu'elle n'existerait peut-être plus. Et je parle d'une belle convalescence, d'une grande résilience, puisqu'effectivement, apparemment, le chantier se déroule bien et ce sera magnifique. Vous avez parlé d'un sauvetage politique, on va le raconter aussi avec vous dans un instant. Mathieu Lourse, Sophie Orange sont nos invités. À tout de suite.
La vie flamand sur RTL. Georgie.
While that it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night. That's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Beautiful Things, c'était Benson Boone sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Georgie.
Et on repart sur le parvis de la cathédrale de Paris, de Notre-Dame de Paris, où on vous retrouve, Mourad Djabari. Le feu est en train de s'étendre à la charpente. Anne Hidalgo déplore à l'instant un terrible incendie qui est sous vos yeux, Mourad.
Oui, exactement. La charpente de la nef est à présent visible. La nef est littéralement éventrée. On ne voit plus que des traversins. Il y a à présent et depuis quelques minutes plus de toit sur la cathédrale Notre-Dame. Les flammes sont de plus en plus grandes, montent de plus en plus dans le ciel.
Ce lundi de printemps 2019, le ciel de Paris s'est donc chargé de la fumée noire et épaisse de l'incendie spectaculaire qui a ravagé Notre-Dame de Paris. On le disait il y a un instant avec nos invités Mathieu Lourse et Sophie Orange, près de 400 pompiers se sont mobilisés avec courage et acharnement pour sauver l'édifice construit entre 1163 et 1345. Il en faut du temps, Mathieu Lourse, pour construire une cathédrale.
Oui, alors le gros œuvre, c'est aller un peu plus vite,
oui.
Mais la remettre au goût du jour, l'achever, la parachever, effectivement, ça a pris au moins 150 ans.
Certains de ces pompiers, justement, seront blessés. On ne déplorera aucune victime, pas même une parmi les 200 000 abeilles qui vivaient dans les ruches installées sur le toit de la sacristie en 2013. Ça a été, en fait, Sophie Orange, un véritable exploit de la part des pompiers de Paris.
Exploit, miracle quand même, parce que dans la lutte contre un incendie, il y a quand même toujours des impondérables.
Oui.
Mais même s'il y a des plans pour lutter contre l'incendie, mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à vivre. Et après, le fait qu'il n'y ait aucune victime, c'est miraculeux, c'est une préparation, mais ça tient aussi du miracle, d'une voûte qui tombe dans un sens plutôt que dans un autre, sachant que le grand danger aussi, c'était la flèche était recouverte d'un gigantesque échafaudage parce qu'il y a une restauration prévue. Et cet échafaudage, avec la chaleur, on s'est dit, il va fondre, il va tomber, et là, qu'est-ce qui va se passer, et cet échafaudage a tenu. Et après, ça a pris des mois pour l'enlever et après pour en remettre un autre. Enfin, c'est une histoire absolument incroyable et personne n'imaginait ni l'incendie, ni la rapidité de la reconstruction.
On peut peut-être très rapidement réexpliquer les conditions en fait, de cet incendie ravageur. Est-ce qu'on les connaît réellement? Parce qu'une enquête avait été diligentée, Mathieu Lourse, très rapidement. Qu'est-ce qu'elle avait dit?
Alors, cette enquête exclut un attentat ou un geste malveillant.
Ouais.
Donc, c'est un feu accidentel dans un contexte de chantier. Je dirais, c'est malheureusement extrêmement banal au regard de l'histoire. Il y a beaucoup d'autres édifices.
Quoi, c'est un truc électrique, c'est une cigarette, on sait ou pas?
On sait pas.
Quand on doit travailler sur du plomb,
on saura jamais.
C'est très difficile de le savoir, mais on crée forcément un danger. Les deux grands dangers qui faisaient brûler les églises au Moyen-Âge, c'est la foudre et le fait d'avoir à manipuler des tisons pour faire les soudures sur les toitures.
Oui. Après, il y a eu un petit peu de retard à l'allumage, de l'image, peut-être sur la gestion de l'alarme, parce qu'il y a quand même eu une alarme qui a sonné, une alerte. Voilà, là, on a sans doute perdu un petit peu de temps. Il y avait des fidèles au début. Tout le monde pensait que c'était un exercice. Il y a peut-être eu un petit peu de retard pour appeler les pompiers qui sont venus 50 minutes. Ils auraient peut-être pu venir un quart d'heure avant. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? On ne le saura jamais.
En fait, je parlais d'incrédulité aussi, parce qu'il y a eu un état de sidération ce jour-là.
Oui,
parce
que la fumée ne se voyait pas de l'intérieur, on ne sentait rien, c'est tellement haut, c'est à des dizaines de mètres de haut. Donc à l'intérieur, on ne voyait rien, il n'y avait pas d'odeur. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit flottement. On ne saura jamais si ces quelques minutes perdues ont été fatales pour la flèche ou pas.
Bon, en tout cas, depuis l'incendie de 2019, il y a près de 200 scientifiques issus de 50 laboratoires qui ont participé aux travaux donc, de restauration du monument. On va expliquer tout cela en détail à ceux qui nous écoutent, puisque vous vous êtes rendus, vous avez suivi aussi Sophie Orange,
j'allais voir la restauration. Énormément d'artisans, voilà, dans leurs ateliers.
Vous les avez rencontrés. Mais vous avez eu une vie.
Non, mais c'est génial.
Rêve.
Mais là, j'ai moins le temps d'y aller parce que voilà.
Je peux vous remplacer si vous voulez.
Et encore vendredi.
C'est ma passion.
Il y a 10 jours, il y avait une visite que j'ai pas pu faire dans la fonderie qui.
Mais
qui
appelez-moi, je me tiens pour vous. Il y a pas de problème. Je le fais gratos. Je peux même vous payer pour le faire parce que je trouve ça fabuleux.
Les artisans français.
On va les mettre en valeur justement, ces artisans français qui ont travaillé sur le chantier de Notre-Dame. Je voudrais juste qu'on fasse quand même un point sur l'état dans lequel elle était, Mathieu Lourse, au lendemain ou les jours qui ont suivi l'incendie. Parce qu'évidemment, il y a eu le feu, mais il y a eu le passage des pompiers.
Oui, le feu et l'eau sont deux ennemis des édifices. Et la cathédrale était blessée à plusieurs points de vue. D'abord, il y a ce qui a totalement disparu.
Ouais.
La charpente réduite.
Ce qu'on appelait la forêt.
Voilà, la forêt de Notre-Dame, c'est devenu une sorte de mikado calciné qui occupait toutes les voûtes. Et puis aussi le sol de la cathédrale, parce que les voûtes elles-mêmes ont été crevés en trois endroits. Il y a trois béances absolument incroyables. La plus spectaculaire, c'est la plus grande des voûtes de la cathédrale, celle de la croisée du transept, qui est par terre.
Ouais.
Et donc, on voit la lumière du jour qui tombe dans Notre-Dame par ce trou.
C'est-à-dire qu'en survolant Notre-Dame, on voyait l'intérieur de Notre-Dame.
Voilà. Okay. Cet endroit-là, c'est là où la charpente de la flèche extrêmement lourde est venue buter sur la voûte extrêmement fine. Parce que une des choses que les scientifiques ont découvertes, c'est que la voûte de Notre-Dame, c'est du papier à cigarette.
C'est de la dentelle.
C'est 10-15 cm. Alors un peu plus épaisse dans les parties les plus récentes, parce qu'on avait compris que c'était peut-être un peu risqué.
C'est fou.
Mais la hauteur avait pour prix la légèreté. Et pour monter à 33 mètres de haut au XIIe siècle, on a voulu affiner la voûte. C'est pas le cas dans les autres cathédrales. Chartres, c'est 40 cm la voûte.
Ouais.
Et ça a beaucoup mieux tenu lors de l'incendie.
Et ça, on l'a découvert donc à la faveur de.
Oui, on s'est rendu compte de la taille des pierres et de la façon dont elles se tiennent presque les unes avec les autres. Il y a une espèce de, j'allais dire, elles bougent bougeait pas cette cathédrale, mais il y a quand même des mouvements, hein, voilà, et la construction, quand on imagine, ils ont dû monter ça avec des cordes, des échafaudages en bois, à la main, parce que ce qu'on a vu là pendant le chantier, avec des échafaudages métalliques, des ascenseurs, des lumières, etc., et de l'électricité, déjà ça nous paraît incroyable. Mais moi, plusieurs fois, je me suis dit, mais en 1100 quelque chose, c'est incroyable, ils ont refait les gestes les mêmes, y compris pour la charpente, de couper avec les mêmes outils, mais avec, voilà, comment on a pu faire ça il y a 800 ans, comment on le refait aujourd'hui, et voilà, et ce qu'on a fait en 5 ans, on l'expliquera tout à l'heure, ce qu'on a fait en 150 ans. Et après, moi, ce qui est frappant, donc, quand je suis rentrée pour la première fois dans la cathédrale après l'incendie, c'est que finalement, donc effectivement, cette énorme béance, moi je suis rentrée par la grande porte, et c'était pas abîmé. Si vous voulez, la grande porte était pas abîmée, on rentre, ce qui était abîmé, c'était les gravats, mais si vous voulez, autour, la cathédrale avait tenu, mais l'œil était attiré par cette lumière, ce grand trou, donc on marchait, après on était bloqué par sécurité, mais on voyait ce grand trou vers le ciel.
Elle était éventrée, en
Elle
fait.
Était éventrée, mais le reste, le sol, moi je marchais sur un sol qui n'était pas abîmé, après il y avait des tonnes et des tonnes et des tonnes de gravats qu'il a fallu ramasser, non pas tiens on va les mettre à la déchetterie,
ouais, bien sûr,
numéroter, certes, pour récupérer la moindre pierre qui peut-être pourrait être utilisée, donc un travail de classement de toutes ces pièce, chaque centimètre carré pouvait être utilisé, même un boulon presque, voilà, il ne fallait rien jeter n'importe comment.
On va se retrouver dans un instant parce que, en fait, ce que vous nous expliquez, Sophie Orange, c'est que la restauration, la rénovation, la renaissance de Notre-Dame de Paris s'est faite aussi comme une enquête. Il a fallu retrouver les pièces du passé pour recomposer finalement l'édifice. C'est passionnant, ce sera dans un instant avec vous sur RTL.
Jusqu'à 2h sur RTL, jour J, la rediffusion.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui verra son réveil. Si tu savais comme c'est beau. Voyez comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Elle a laissé son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
Sur le sol des promesses.
Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste, elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
Vous venez d'entendre Julien Doré et Joseph Kamel avec la chanson Beau dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'hommage à Notre-Dame de Paris. 48 heures précises après le début de l'incendie. les cloches de toutes les cathédrales de France retentissent.
Français, croyants ou non, quelle que soit leur religion, ont été touchés en plein cœur par l'incendie de Notre-Dame en 2019. Et on parle de sa renaissance, de sa résilience, sa restauration, avec nos invités que sont Sophie Orange, rédactrice en chef à RTL, et Mathieu Lours, qui est spécialiste des cathédrales et enseignant en histoire de l'architecture à Paris-Cergy Université. Moi, quand je vous vois, à chaque fois, je me dis je voudrais être une élève de Mathieu. Non, mais c'est vrai, écoutez, vous êtes passionnant.
Avant que je rende les copies avec des notes absolument...
Quoi, vous saquez, vous?
Ah, je sac, forcément.
Ouais, mais enfin, vous êtes passionnant, donc écoutez. C'est déjà ça, nous, on vous a... Et l'avantage, c'est que nous, on ne doit pas rendre une copie, on est juste là pour vous écouter. Merci à vous deux, en tout cas, d'être nos invités. Il en est un qui a eu foi dans la renaissance de Notre-Dame. Et Sophie Orange, vous disiez, en fait, on a fait en 5 ans ce que eux avaient fait en 150 ans. Eh bien, il en est un qui a eu foi dans cette idée, c'est Emmanuel Macron.
Alors, il faut... comprendre, je pense, pour avoir la compréhension totale de la réussite de ce chantier, parce qu'on peut le dire de ça déjà, c'est que la restauration a commencé dans la nuit du 19 au 20.
Voilà, c'est-à-dire que tout de suite, engagé dans la... Voilà.
Oui. Alors, Emmanuel Macron a pris les choses en main, il a nommé un général, le général Georges Lain, pour piloter tout ça. On s'est dit, mais pourquoi nommer quelqu'un? Mais si, parce qu'en fait, il faut quelqu'un qui, dès le 20 avril, alors il a été nommé quelques jours après, bien sûr, mais penser la reconstruction dès le lendemain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très très vite, dans les semaines qui ont suivi, il fallait déjà penser à sélectionner les pierres, trouver les pierres qui avaient la même blondeur, penser aux chaînes, enlever... Les vitraux ont été enlevés quasiment 3-4 jours après, pour les protéger, parce qu'on s'est dit, de toute façon, ils n'ont pas été abîmés par l'incendie, ils n'ont pas été cassés, mais au moment où on va enlever les gravats, on va les abîmer. Donc les vitraux, dès 3-4 jours après, ils ont été enlevés de la cathédrale. Ça, le chantier
donc,
a été
fait,
pensé le lendemain.
Donc en fait, on a déshabillé, ce que vous dites, c'est que tout de suite, après l'incendie, on a pensé à sa renaissance,
voilà.
Et on a déshabillé, finalement, Notre-Dame pour protéger ce qui était
voilà,
encore possible.
Ce qui pouvait être abîmé, et puis je pense que, je ne suis pas sûre qu'au moment où il disait ça, le président Emmanuel Macron pensait que ce serait réalisable.
Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser, Mathieu Lours, parce que quand il a dit 5 ans, certains lui ont ri au nez quand même, en expliquant que 5 ans c'était bien audacieux.
Qu'on allait faire ça n'importe comment,
exactement,
sans respecter
que
les règles.
Que ça allait être cheap, qu'on allait le faire à la one again.
Eh bien pas forcément, parce que d'une part les moyens financiers sont à la hauteur du désastre.
Alors,
donc c'est quand même essentiellement ça qui compte. Les compétences, on les a. En France, on n'a jamais arrêté de restaurer des monuments historiques.
C'est juste.
Sans compter l'expérience, l'expertise qu'on a eue grâce aux deux guerres mondiales. Malheureusement, les monuments blessés, on sait les relever.
Bien sûr.
Et puis, Notre-Dame, c'est quand même essentiellement de la reconstruction de charpente. Le gros œuvre, il a tenu.
Ouais.
Parce que dans la construction gothique, la voûte, elle est prévue justement pour isoler l'édifice en cas de feu de charpente. Et elle est conçue aussi au cas où l'intérieur brûle, pour que la charpente ne prenne pas feu. Donc on doit remercier aussi les ingénieurs du XIIe siècle, qui avaient un peu anticipé ce type de désastre.
Et on peut presque remercier l'incendie. C'est-à-dire que...
Alors, c'est une question... Alors, je ne savais pas si je pouvais vous la poser.
Mais bien sûr.
Mais j'y ai pensé en préparant l'émission.
Mais bien sûr.
Ouais.
C'est-à-dire que sans cet incendie, il n'y aurait pas eu 840 millions d'euros récoltés dans 150 pays du monde auprès de 340 000 donateurs. Certains ont donné 10 euros, d'autres des millions.
Oui.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on restaure une cathédrale, d'habitude, on met 5 ans pour trouver l'argent pour restaurer les chapelles. Ok, on met 10 ans pour les faire. Après, on va se dire, maintenant que c'est fini, on va trouver de l'argent pour l'orgue. Ok, on met 5 ans pour trouver l'argent pour l'orgue, on va restaurer l'orgue. Ok, ça c'est fini. Après, on va... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, avec cet argent, eh bien, on savait qu'on pouvait tout faire en même temps. Et quand je dis tout faire en même temps, c'est-à-dire que l'architecte en chef de Notre-Dame, M. Villeneuve, il a pensé tout en même temps. Et vous savez, quand vous faites une rénovation de maison, vous avez un tableau avec des lignes, ça c'est la plomberie, l'électricité qui doit commencer tel jour. Vous, ça vous prend 2 pages à 4. Là, la cathédrale Notre-Dame, le tuilage de toutes ces étapes, ça prenait des dizaines de mètres linéaires pour savoir tout ce qui se passait en même temps. Parce qu'en fait, il y a eu des chantiers. Notre-Dame, ce n'est pas le chantier de la cathédrale.
Ouais.
C'est les chantiers, les dizaines de chantiers de la cathédrale. Donc l'argent, l'organisation et l'excellence française des artisans.
Alors, plus de 800 millions d'euros, c'est ça?
Voilà, 840 millions.
840 millions, ça aura coûté. On se souvient de la surenchère des hommes les
des
plus riches
familles,
de France, les grandes familles. Alors, François Pinault, 100 millions. Bernard Arnault, 200 millions. 200 millions également de la famille Bettencourt. Il y avait une sorte de surenchère un peu quotidienne.
Tout à fait.
D'aucuns d'ailleurs ont déploré tout cet argent débloqué pour un monument historique.
On disait déjà ça au Moyen-Âge.
Eh ben voilà,
on
c'est
disait
vrai que
à l'abbé Sugère, votre abbaye à Saint-Denis, c'est l'argent des pauvres. C'est Saint-Bernard qui lui disait ça. Mmh. Et Sugère répondait, la beauté appartient à tout le monde.
La beauté appartient à tout le monde et elle va bientôt être rendue à la France et aux Parisiens. Pourquoi avez-vous dit tout à l'heure que le sauvetage était aussi politique?
Il est politique parce qu'un chantier pareil, il faut un pilotage. Et il faut donc une maîtrise d'ouvrage. Or, Notre-Dame, elle appartient à la nation. Le clergé en France a fait don de ses biens à la nation en 1789, donc de Notre-Dame. Et Notre-Dame est encore aujourd'hui un monument qui appartient à tout le monde. Or, l'État, c'est Emmanuel Macron. Il s'incarne dans la personne du président de la République. C'est donc à lui de piloter cette reconstruction. Or, les présidents de la République sous la 5e aiment beaucoup avoir des grands chantiers. Aime piloter des chantiers. Et là, pour la première fois dans l'histoire depuis que cette République existe, eh bien, on a un grand chantier qui n'est pas une création, une construction, mais une restauration. Et paradoxalement, ça ne changera rien au ciel de Paris. C'est-à-dire que le centre Pompidou, on le voit, l'Institut du Monde Arabe, on le voit. Là, on reverra ce qu'on voyait auparavant. C'est très intéressant. C'est à la fois une renaissance et une continuité. C'est très 21e siècle, en fait.
Et le choix politique aussi, ça a été de refaire la cathédrale à l'identique.
Ce que j'allais vous demander, voilà. Justement, Sophie Orange, parce qu'il y a eu plusieurs projets qui ont
été... Débat très court.
C'est vrai.
Parce que dès l'été, finalement, il a été décidé de la refaire à l'identique. Et j'allais dire heureusement, parce que la cathédrale, elle était conçue pour avoir une charpente en bois qui pèse lourd. C'est-à-dire que tout se tient. C'est-à-dire que si on met tout d'un coup une charpente très légère en fibre de carbone, peut-être que ça va déséquilibrer l'ensemble et que ça tiendra moins longtemps. Donc à partir du moment où on décide de refaire la cathédrale à l'identique, choix politique, ça c'est sûr, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il faut chercher des chênes. Parce que pour une charpente, un chêne, c'est pas je le coupe dans la forêt le dimanche et le vendredi suivant, je construis la charpente. Il faut aller le couper, il faut d'abord le couper dans la forêt, et ensuite il faut le faire sécher, il y a tout un processus. Et puis trouver des arbres qui sont capables de devenir une charpente de Notre-Dame, ce sont des arbres remarquables, des chênes qui ont été donnés par des domaines publics, mais aussi par des propriétaires privés. Donc là encore, magie de ce chantier. Donc voilà, 1000 arbres qui ont été donnés, bichonnés, des arbres qui font 20 mètres de haut. Donc c'est aussi pour ça que je dis que c'était important de prendre des choix tôt, parce que si on avait décidé en 2023 de faire la cathédrale à l'identique, on n'y serait jamais arrivé en 2024. On ne peut pas faire une charpente pour le coup en quelques mois. Pareil pour l'orgue, on n'en a pas parlé, les 8000 tuyaux
d'orgue.
Mais on
va en parler, on a voilà, du on temps. Pas là, ça y est, elle est partie, mais parce que évidemment, ça a dû être passionnant toutes ces années-là.
Oui, mais j'en frissonne, c'est marrant.
Mais bien sûr, mais moi j'en frissonne quand je vous écoute
dès
aussi.
Dès que j'en reparle, alors que j'imaginais pas.
Ah là là, allez, c'est l'orgasme des méninges ce soir. Exactement, l'orgasme des cathédrales. C'est dans Jour J et c'est avec vous, à tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Jour J.
This ain't Texas, ooh. Ain't no hold'em, hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up, hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, hey. Come take it to the floor now, woo. There's a tornado,
ooh, tornado
in my city.
In the basement,
that ain't pretty. Rugged whiskey, we're surviving. A red cup, kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar. We always thought was nice. This ain't Texas,
oh.
Ain't no hold'em,
hey.
Lay your cards down, 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 down. So pop your Lexus,
oh.
And throw your keys up,
hey.
Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a,
hey.
Come take it to the
and
floor
And I'll be
now.
Damned if I cannot dance with you. Come
too hot to think straight,
too hot to think straight.
Too cold to panic,
cold to panic.
damned if I cannot dance with you. Come pour some sugar, homie, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey. Come take it to the floor. I'll be now. Damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor, homie, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now. Take it to the floor now. To the flow now.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, boots, sologenic, photogenic.
Texas Hold'em, c'est le grand succès de Beyoncé sur RTL.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Toujours en compagnie de Sophie Orange qui a des frissons quand elle nous parle de la rénovation de Notre-Dame. Moi je dis que c'est le chantier du siècle aussi, Mathieu Lourse, c'est pas faux.
C'est pas faux, c'est complètement vrai.
D'accord.
À Paris,
ce sera dans les livres d'histoire de nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants, quoi. Mais enfin, pardon, dans les iPads d'histoire. Enfin, j'ai même pas dans les lunettes virtuelles d'histoire. Enfin, bon, bref.
Est-ce qu'il y aura encore
de l'histoire ? Vous comprenez quoi ? Ouais, est-ce qu'il y aura encore de l'histoire ? Oh là là,
non,
m'en parlez pas. Non, mais il y aura en tout cas toujours Notre-Dame. On peut vraiment se dire qu'il y aura Notre-Dame. Parce que, en fait, Sophie Orange, on l'a fait revivre Notre-Dame. Mais pour qu'elle existe encore 900 ans, pour qu'elle existe encore 1000 ans, pour que. C'est pour ça qu'elle avait été construite. 900 ans d'histoire. Ravagé en 2019 par cet incendie. Mais là, on repart encore sur une nouvelle ère.
Oui, et puis on avait la chance aussi en France d'avoir un savoir-faire.
Ouais.
Des artisans capables d'accomplir ce chef-d'œuvre en 2020, 2022, 2024. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette cathédrale, tout à l'heure, vous disiez qu'elle avait été déshabillée pour être reconstruite. Et la façon dont ont été conçues les étapes du chantier, c'est de faire en sorte que des concurrents, tailleurs de pierre, charpentiers, maître verrier pour les vitraux, que des concurrents s'entendent. Parce qu'évidemment, il n'y a pas un facteur d'orgue en France capable de s'occuper de 8000 tuyaux. Il y a 8000 tuyaux dans la cathédrale.
Est-ce qu'il
Donc
faut
c'est
le
la
dire,
force
oui,
du
pardon.
Chantier, c'est ça. C'est d'unir des concurrents, l'union des forces. Sinon, on n'y serait pas arrivé.
Une solidarité.
Oui, oui, mais ce n'est pas gagné parce que c'est des gens qui répondent à des appels d'offres. Voilà, il y a des enjeux financiers énormes, mais ça aussi, c'est une clé du chantier.
Et la
ça, c'est dû au général Georges Lain qui a su initier avec son énergie, sa voix. Malheureusement, il a disparu l'été dernier.
Oui. C'est fou parce qu'en fait, c'est l'histoire de cet homme qui a disparu avant de voir la fin du chantier.
Son successeur, Philippe Jost, a très très bien repris les rênes, mais c'est vrai qu'il a marqué le chantier par sa voix, par sa personnalité.
Oui. Et cette disparition qui a dû bouleverser aussi tous ceux qui travaillaient sur le chantier Notre-Dame. Sophie Orange disait il y a un instant, on pourrait presque, enfin j'ai du mal à le prononcer comme ça, mais remercier l'incendie à plus d'un titre. Et notamment parce que Notre-Dame, Mathieu Lourse, recelait des secrets que l'incendie a révélé. Alors ça, c'est quelque chose d'incroyable. J'invite ceux qui nous écoutent, hein, qui sont à Paris ou qui vont se rendre à Paris prochainement, à juste venir voir l'édifice qui est encore en rénovation et sur lequel, justement, il y a des panneaux qui expliquent tout l'ensemble du chantier.
Il y a même une salle en sous-sol, on peut accéder aussi à une sorte de chantier virtuel pour comprendre ce qui
se passe. Qu'est-ce que l'incendie, qu'est-ce que les travaux ont révélé ? Parce qu'il y a des trouvailles archéologiques.
Oui, alors il y a déjà des trouvailles sur l'archéologie du monument lui-même.
Oui, c'est ça.
On a découvert que le métal était beaucoup plus présent qu'on imaginait pour tenir la structure. Dès la fin du XIIe siècle, on a un cerclage métallique dans les parties hautes de l'édifice qui permettent justement à la fois légèreté, élasticité, et puis le bois, comme vous le disiez, qui permet d'asseoir par son poids l'ensemble de l'édifice. Donc c'est en fait un dialogue à trois, pierre, bois, métal, qui permet à la statique de la cathédrale de fonctionner. Et puis il y a tout ce qu'il y avait en dessous. C'est-à-dire qu'en dessous, dans les endroits où l'INRAP a pu opérer des fouilles archéologiques, on a trouvé un trésor de sculptures. Plus de 1000 fragments sculptés de ce qui était le jubé de la cathédrale, c'est-à-dire
Alors
la porte
de son... Alors c'est quoi le jubé ? Voilà, parce que
voilà,
c'était les fragments polychromes de jubé.
À l'intérieur de la cathédrale, il y avait plusieurs espaces. Il y avait un espace pour les fidèles et un espace pour le clergé. Et le clergé, qui occupait ce qu'on appelle le chœur, l'espace qui environne l'autel, était enfermé par un mur. Et la façade de ce mur, en face des fidèles, on appelait ça un jubé. Parce que quand on proclamait l'évangile en haut, on disait une phrase avant de monter, en bénissant le livre de l'évangile, « Jubé domine benedicere ». Jubé en français, « Daigne Seigneur bénir ». Et donc, l'objet s'est appelé comme ce qu'on y faisait, des bénédictions, des lectures des évangiles et des épîtres. Et le jubé, c'était un mur d'images. Vous voyez la façade avec les portails, les sculptures. Vous aviez la même chose à l'intérieur pour l'entrée du chœur. Tout ça a été démoli par volonté de Louis XIV qui voulait ouvrir le chœur, un nouveau décor classique avec l'exaltation de sa statue et celle de son père, etc. Donc on démolit le jubé en 1711, mais comme c'est des objets sacrés ces sculptures, on les enterre sous le nouveau pavement en marbre. Donc évidemment, quand on a enlevé le pavement en marbre qui s'était pris toute la chute de la charpente, bien, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Les fragments du jubé.
Incroyable. On a trouvé des sarcophages aussi.
Oui, alors ça, c'est moins surprenant, parce que dans toutes les cathédrales, on a inhumé pendant des siècles.
Oui, mais on ne savait pas qu'ils étaient là, ceux-là.
On savait qu'on allait trouver de l'humain.
On les a
mais
vus,
alors,
quoi.
Deux beaux cercueils comme ceux-là, en plomb, et en particulier celui du chanoine de la Porte, un des grands mécènes de Notre-Dame qui avait financé une bonne partie du décor au XVIIIe siècle. C'est très émouvant de le retrouver. Parce qu'il est représenté dans son portrait au Louvre. Voilà, savoir que c'est lui qu'on a trouvé son corps. C'est un peu, si vous voulez, un bienfaiteur de Notre-Dame qui avait déjà donné 20 000 livres, ce qui était énorme à l'époque, qui est retrouvé grâce au bienfaiteur d'aujourd'hui. La boucle est un peu bouclée, en fait.
Vous l'avez vu, ça, vous, avec vos yeux ?
Non, moi, j'ai vu simplement les rapports qui ont été communiqués par l'INRAP dans les communiqués
de
presse.
Ça doit être hyper émouvant.
Mais c'est très émouvant. Très, parce qu'on découvre vraiment que la cathédrale conserve en son sein son histoire, et pas seulement de l'histoire de Pierre, de l'histoire vécue. Il y a les corps qui sont là, mais il y a aussi les donations, il y a des tas d'histoires. C'est grouillant de vie, Notre-Dame de Paris. On pourrait écrire un livre sur ce qui se passait dans cette cathédrale. Et c'est, des fois, ça va jusqu'au baston entre le président du Parlement qui veut passer en premier devant le président de la Cour des Aides. Il faut les séparer. Sous Louis XIII.
Mais j'ai toujours dit, moi, que les lieux parlaient, mais ce que vous nous dites aussi, c'est que dans sa souffrance, Notre-Dame a parlé aussi de ce qu'elle avait vécu.
Il y a une éloquence du monument, et il y a tous ceux qui ont su lire Notre-Dame. Les archéologues, les historiens de l'architecture, les historiens des matériaux, les scientifiques, les spécialistes de la 3D, de la numérisation. Enfin, on n'avait jamais, à une telle échelle, fait contribuer différents corps de métier qui vont du plus abstrait au plus concret. Et en plus, avec un pilotage exemplaire, avec la maîtrise d'œuvre, l'architecte, et la maîtrise d'ouvrage, l'établissement public. Ça, c'est quand même la première fois qu'on voit ça.
On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous permettre de rentrer dans Notre-Dame. Vous nous avez parlé, Sophie Orange, du grand orgue 8000 tuyaux. Il a été épargné, mais il a été très abîmé, donc on y reviendra. Il y a eu les vitraux, il y a eu les tableaux qui étaient recouverts de suie et qui tout à coup recouvrent des couleurs absolument chatoyantes. Et puis, il paraît que Notre-Dame n'a jamais été aussi lumineuse qu'aujourd'hui. Vous allez nous emmener, justement. On va pousser la grande porte. À tout de suite.
RTL, jour J, avec Flavie Flamand, la rediffusion.
C'est dur de se séparer, au troisième coup de sifflet. On sent la déception de la défaite. C'est si facile de se prendre la tête. C'est sûr que la team doit s'organiser, devenir une famille sans y habiter. Papa, maman vont devenir amis. Ça veut pas dire que tout est fini. On va garder le maillot de parents. Ça fait 6 ans qu'ils nous font rêver. On a quand même eu du talent. Regarde un peu ce qu'on a créé. Passé, n'en parlons plus. Allez, adieu. On fait de nous deux des parents. On est quitte. Un enfant, deux enfants, une équipe. Wow. Une équipe. Chacun ses choix, chacun sa vie, chacun sa voix, chacun ses raisons. Chacun chez soi, chacun ses nuits, chacun ses jours, chacun sa maison. Chacun de son côté, chacun sa liberté, chacun son tempo. Chacun sa solitude, chacun sa lassitude, chacun son renouveau. Adieu, on se dit adieu. Deux amoureux vaincus du passé, n'en parlons plus. Allez, adieu. Faut bien tenir le coup pour eux, ces deux petits bouts, nous deux. Une équipe après tout pour eux, encore un peu de nous, nous deux. Faut bien tenir le coup pour eux, ces deux petits bouts, nous deux. Une équipe après tout. Adieu, on se dit adieu. Deux amoureux vaincus du
du passé, n'en parlons plus. Allez, adieu, on fait de nous deux des parents, on est quitte, un enfant.
Adieu, c'est la toute nouvelle chanson de Jérémy Frérot et c'est dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Sophie Orange, l'incendie a été aussi l'histoire d'une renaissance donc de Notre-Dame de Paris. On en parle avec vous ce soir. Et vous parliez d'une chance aussi parce qu'on a pu découvrir l'histoire davantage dans ces pierres qui ont parlé dans leur souffrance. Et puis on a pu aussi retrouver un sarcophage, on a pu retrouver des fragments polychromes de Jubé dont vous nous avez expliqué la fonction il y a un instant, Mathieu Lours. C'était une chance aussi pour les artisans quelque part que vous avez rencontrés, parce que quelle aubaine, quel chantier, c'est le chantier d'une vie.
Ah mais tous l'ont dit, c'est le chantier d'une vie.
Ouais.
C'est-à-dire que beaucoup travaillent déjà sur des cathédrales, évidemment, les vitraux, voilà, ceux qui travaillent sur les vitraux, notamment à Troyes, il y a tout un berceau de l'art de la verrerie à Troyes. Tous nous ont dit, c'est le chantier d'une vie. Ça a bousculé leur calendrier, ça a bousculé leur méthode, ça les a obligés à travailler parfois avec des concurrents, je le disais. Et figurez-vous que pour avoir visité l'un des ateliers qui resterait les vitraux, encore une fois, n'ont pas été abîmés comme beaucoup de choses de la cathédrale. On a profité de l'aubaine pour tout nettoyer,
là, contre
les chapelles. Voilà. Donc moi, j'ai vu quand même des gens penchés pendant des heures sur un vitrail avec un coton-tige, de l'eau, et en train de frotter des vitraux. Avec des endroits où il fallait intervenir plus profondément, mais
des tableaux.
Et donc,
racontez-nous.
Donc ils travaillaient en musique, et puis ils voyaient apparaître, parce que c'est vrai que c'était très encrassé par la pollution extérieure,
bien sûr.
La pluie, ça formait une croûte, voilà. Et puis à l'intérieur, par la sueur, la respiration et la fumée des cierges.
Tout ça avant même l'incendie.
Avant même l'incendie,
c'est que l'édifice, de toute façon, était déjà
noir, de toute façon, il était déjà abîmé par les ans.
Abîmé.
Et là, on a profité, il y a énormément, j'ai pas le pourcentage en tête, mais il y a une grande partie de la cathédrale qui n'a pas du tout été touchée ni par les flammes, ni par l'eau des pompiers. Voilà, les tuyaux de l'orgue, ils ont reçu des poussières de plomb, mais pas un n'avait reçu un coup de pierre, etc. Donc, si vous voulez, voilà, tous ces ouvriers, moi, je suis allée rencontrer
des tailleurs de pierre,
des facteurs d'orgue, des maîtres verriers. Tout a été dispatché dans toute la France.
C'est ça.
Il y a eu des convois exceptionnels aux quatre coins de la France, aux 12 coins de la France, voilà, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, voilà, tout le monde. Et moi, je suis allée voir une sculptrice au sud de Paris. Je ne peux pas dire où elle travaille pour des raisons de sécurité, je ne l'ai pas dit dans mon reportage. Voilà, elle est toute seule, elle a gagné un lot toute seule de quelques pièces majeures qu'elle est en train de restaurer. Et puis, il y a une grosse entreprise qui a gagné un autre lot. Voilà, c'est ça qui est formidable, c'est vraiment tout le monde a pu, toutes les PME, tout le monde a pu accéder à ce chantier.
En fait, c'est le monde de l'artisanat qui s'est rassemblé
pour faire renaître cette cathédrale.
L'orgue, racontez-nous cet orgue.
Alors,
8000 tuyaux.
Alors, l'orgue de 8000 tuyaux, moi je suis allée assister le dernier jour, on a enlevé les derniers tuyaux, c'était en décembre 2020 ou 2021.
Donc il a été démonté.
Donc, des tuyaux par tuyau. Donc, il y a des tuyaux qui font 2 cm et 1,5 cm de diamètre et d'autres qui sont énormes. Donc, les tuyaux, ils ont été complètement démontés et répartis pour être nettoyés. Et puis on s'est dit, on a tout enlevé. Bon, on va en profiter pour nettoyer le buffet qui est en dessous.
C'est quoi le buffet?
Le buffet, en fait, c'est ce qui permet de soutenir la structure.
D'accord.
Après, il y a toute une soufflerie aussi pour que l'air circule. Bah, du coup, on s'est dit, on a l'argent, on a les connaissances, les appels d'offres. Et donc, l'orgue, il y avait des pots d'agneau qui auraient pu attendre encore une cinquantaine d'années avant d'être restaurés. Mais puisqu'on avait tout enlevé,
on y va.
Voilà, donc, et là, en ce moment, l'orgue, donc les tuyaux, tout a été réparé. Les tuyaux sont en train d'être remis un par un. Et sont en train d'être harmonisés et réaccordés. Ça se passe la nuit, puisqu'évidemment, dans la journée, il y a beaucoup trop de bruit. Donc là, un par un, les tuyaux sont... Là, je crois qu'il y en a 1000 qui ont été posés.
Attends, on joue là un peu de l'orgue à Notre-Dame la nuit.
Alors, on ne joue pas de l'orgue, c'est tuyau par tuyau. Donc,
d'accord, enfin, on teste les tuyaux.
On teste tuyau par tuyau la nuit, pour pas que...
Donc en fait, Notre-Dame vit la nuit
Mais vit la nuit aussi avec tous ceux qui s'occupent de l'orgue, pendant que les autres vont dormir.
Quelle poésie.
Voilà, parce qu'on ne peut pas accorder, harmoniser un orgue quand il y a des coups de marteau et des échafaudages et des souffleries et des perceuses. Et voilà, donc la cathédrale vit la nuit. Je vous promets que vous entendrez ça un matin sur RTL bientôt.
D'accord. C'est magnifique. Racontez-nous, Mathieu Lours, ce que vous avez vu lors de votre dernière visite, les émotions qui vous ont étreint lorsque vous êtes rentré dans Notre-Dame.
Alors, il y a deux émotions. D'abord, l'émotion des hauteurs.
quand vous vous promenez dans la charpente, qui était la dernière fois que je suis allé, qui n'était pas encore recouverte, vous avez l'impression d'être une espèce de navire qui vogue au-dessus de Paris. C'est absolument incroyable. Et quand on montait en haut de l'échafaudage de la Flèche à 100 mètres de haut, vous étiez sur le mât du navire. Vous avez l'impression que l'île de la Cité, c'est un trois-mâts. Puis les jours où il y a un peu de vent, un peu de tempête, vous restez là. Enfin, c'est le. Alors, je dirais pas le Titanic parce que c'est de mauvais augure. Et puis il y avait pas de voile. Mais c'est ça. C'est une espèce de sensation qui est l'exact inverse de ce qu'on a vécu le jour de l'incendie. Le jour de l'incendie, on voit le truc qui s'écroule. Puis là, on est à nouveau en haut. Et c'est absolument incroyable. Je crois que ça mérite d'être vécu.
Qu'est-ce qui vous a frappé au-delà de ça?
Ce qui m'a frappé, c'est...
Est-ce que c'est là... vous êtes spécialiste des cathédrales. Est-ce que vous avez reconnu Notre-Dame de Paris?
Eh bien, on est dans un chantier de cathédrale. Ça abolit un peu le temps, cette affaire-là. Ouais, on ne sait pas si on est en 1200 quelque chose ou en 2000 quelque chose, en réalité. Alors, on voit très vite qu'on est en 2000 à cause de l'électricité et puis de tout ce que la technologie a permis de faire. Mais, voilà, tout est suspendu, en quelque sorte. Et à l'intérieur, alors là... Ça, c'est vraiment la grande révélation. Parce qu'encore à l'extérieur, on la retrouve telle qu'on l'a connue, visuellement. Mais à l'intérieur, c'est la cathédrale idéale, en fait.
Pourquoi ?
Parce qu'on retrouve la blondeur des enduits, on retrouve les lignes, et on retrouve surtout l'équilibre. On va retrouver, parce que c'est encore très assombri par la présence d'échafaudages, mais on sent déjà qu'on va retrouver la lumière telle qu'on l'avait pensée au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on pensait pas les cathédrales comme des grottes. C'était pas des murs noirs avec des vitraux. C'était des murs clairs avec les vitraux. Et on voit déjà ça à Chartres, qui a été restauré comme ça ces dernières années. Et là, on va voir les vitraux médiévaux, les grandes roses qui jouent sur les couleurs bleues et rouges, qui vont se refléter sur de l'ocre clair, et ça va tout changer.
On va se retrouver dans un instant, Sophie Orange. Je vais vous demander de nous emmener dans Notre-Dame telle que vous l'avez ressentie et vécue. Ce sera dans la suite de Jour J.
RTL, Jour J.
Avec Flavie Flamand. Flamand sur RTL.
Sophie Orange, ouvrez-nous la porte de Notre-Dame telle que vous l'avez vue, et vous qui en plus avez rencontré tous ces artisans qui ont travaillé avec passion sur le projet de rénovation.
Je peux vous raconter ma première et ma dernière visite.
Allez-y.
La première visite, donc là j'ai le cœur qui bat parce que je vais quand même rentrer dans Notre-Dame qui a brûlé. Donc déjà il faut savoir que j'ai dû faire une formation au plomb avant de rentrer dans la cathédrale pendant une matinée pour pouvoir aller dans la cathédrale, puisque beaucoup de plomb avait fondu et donc il y avait un risque pour la santé. Et les ouvriers, d'ailleurs les artisans, ont dû travailler avec des masques, etc. pendant des mois et des mois et des mois. Donc tous ceux qui rentraient dans la cathédrale, déjà on suit une formation au plomb. Et ensuite,
c'est quoi une formation au plomb ?
Eh ben on nous explique d'où vient le plomb, quand est-ce qu'il a été retrouvé pour la première fois, les dangers du plomb, des études scientifiques, pour avoir conscience des dangers du plomb.
D'accord.
Et on vous explique que vous pouvez rentrer avec le moins de choses possible. Et de toute façon, on se met à nu dans une cabine et on met une combinaison complète.
Ah d'accord.
Des pieds à la tête et on prend pas de sac. Moi, j'avais un micro. On m'a dit la petite bonnette RTL, faudra la nettoyer après parce qu'elle peut avoir du plomb. Voilà. Donc, la première rentrée, on se dit oula, où est-ce que je vais ? Alors, il n'y a pas de danger quand on y va une fois, trois heures. Le danger, c'est d'inhaler, voire d'avaler, ce qui n'était évidemment pas notre cas, mais il fallait respecter le protocole. Donc, il y avait ça. Et après, donc c'était ça. Moi, j'étais assez impressionnée. Après, on se remet à nu, on se douche, cheveux compris, et on jette tout le matériel, la blouse, etc. Et après, on ressort dehors et on se dit j'ai vécu un truc historique. Ça, c'était la première visite. Donc c'était pour montrer aussi que les artisans qui ont travaillé dans la cathédrale, dès qu'ils sortaient dehors, devaient se doucher, se changer. Enfin, ça a été des conditions de travail quand même très lourdes pour tout le monde. Et la dernière visite, il y a quelques mois, moi ce qui m'a frappé, c'est la lumière et la blondeur de la pierre. C'est-à-dire que Notre-Dame, c'était l'image qu'on en a, c'est une grotte. Donc je ne suis pas sûre qu'on la reconnaisse.
Une certaine austérité.
Oui, puis une noirceur.
Ouais,
là, une clarté, une blondeur de la pierre. La lumière passe à nouveau à travers les vitraux. Et encore, il reste des échafaudages.
Oui,
donc effectivement, le sol est clair, les chaises qui vont arriver vont être d'un bois blond clair. Moi, j'ai été émerveillée. Je passais ma tête, le nez en l'air. Donc cette blondeur va vraiment nous surprendre. Parce que c'est vrai qu'extérieurement, la partie extérieure du chantier va continuer après 2024. Évidemment, rien n'est terminé.
Voilà.
Mais donc ça n'a pas encore beaucoup changé. La flèche est revenue, on a tous le cœur qui bat à nouveau. Mais voilà, l'intérieur, cette blondeur est... Moi, j'ai des photos dans mon téléphone, je les regarde souvent.
Il y a quelque chose de divin, non ? Est-ce que
c'est un miracle.
Exactement,
c'est un miracle.
De miraculeux. Rend Mathieu Lours à Notre-Dame sa fonction première de rayonner et de...
Ça exalte sa sacralité, parce que qu'on soit croyant ou non, c'est un édifice sacré. On a beau nous dire que c'est historique, oui, mais enfin, une église, quelle qu'elle soit, et beaucoup de gens ont pris conscience, au-delà de Notre-Dame, de la sacralité de leur église de village, de quartier.
Bien sûr.
Et en fait, on découvre que la France, elle est remplie de petites Notre-Dame qui sont parfois en danger, qui risquent de brûler, de ne pas être entretenues. Et c'est ça aussi, ça nous touche tous parce qu'on se rend compte qu'à notre échelle, eh bien, on est tous responsables de la vie et de l'attachement et de sa transmission.
Est-ce qu'elle sera prête en décembre, Notre-Dame? On en sera où dans le chantier? Vous l'avez dit, Sophie Orange, il y aura encore
2024,
des choses à faire jusqu'en 2028.
Voilà, là, le chantier rend les clés, si j'ose dire. Voilà. Après, ce ne sera pas ouvert au public, sans doute à 100%, mais les cultes ont déjà été célébrés en tout petit comité, vont pouvoir être à nouveau célébrés. Elle est rendue au culte et à la visite. Voilà, c'est la phrase officielle le 8 décembre 2024. Après, le détail, l'ampleur, on verra. Et après, le chantier continuera à l'extérieur.
Okay.
Et puis à l'intérieur aussi, il y aura évidemment des choses à terminer. Mais le contrat est rempli.
C'est ça, le contrat donc sera rempli au mois de décembre. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu le 8 décembre? Une bamboche
Alors, plus qu'une bamboche, le pape a été invité.
Ah oui, effectivement.
Excusez-moi.
Pardonnez-moi du peu.
Voilà, est-ce que le pape viendra voilà,
Il s'était
c'est
exprimé.
Pas moi qui vais répondre, c'est pas moi qui vais répondre. Non, ce sera un moment unique pour les chrétiens
du
monde entier, pour les amateurs d'histoire, de patrimoine.
Donc il va y avoir une célébration.
Oui, bien sûr. Et RTL sera aux premières loges.
Évidemment.
J'y travaille déjà.
Et vous serez, j'imagine que vous serez vous-même aux premières loges pour rendre compte de cette renaissance, de cette résilience. Mathieu Lours, c'est une histoire passionnante qui se retrouvera dans les livres d'histoire, évidemment, tout ça. Vous qui êtes enseignant.
On travaille à les écrire.
Déjà.
Et il y a aussi, ce qui va être le plus dur, je pense, c'est d'arriver à transmettre toute la passion et toute la dimension humaine du chantier. C'est ça qu'on aimerait connaître sur les chantiers du Moyen-Âge. Parce que souvent, on a des monuments sublimes, et à côté, on a des registres de comptes avec des chiffres alignés. Bon, il faut qu'on retisse l'humain, et là, on l'a sous les yeux, et on a enfin la possibilité, grâce aussi aux radios, aux médias, de garder des traces de tout ça.
Exactement.
Ça, c'est extrêmement précieux.
Il y a eu une volonté d'ouverture et de communication incroyable, parce que c'était un risque quand même. C'était un risque de retard, un risque d'un accident, un risque que ça se passe pas comme on avait prévu. Mais les portes ont été ouvertes, vraiment, avec une grande intelligence. Et je pense que les Français ont pu assister à toutes les étapes du chantier, semaine par semaine.
Voilà, et se sentir investis.
Ils ont donné de l'argent et ils ont retrouvé leur cathédrale.
Merci infiniment à tous les deux. C'était passionnant. Sophie Orange, on vous entend. Je vais vous laisser rejoindre la rédaction d'RTL, mais merci d'être venu jusqu'à nous. Mathieu Lours, merci à vous. Je conseille vos ouvrages Notre-Dame des siècles aux éditions du Cerf. Et le dernier, c'est La grâce des cathédrales aux éditions Place des Victoires. Merci.